RFI à Dakar, 92 FM.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue à Washington. Nous sommes pour une dernière émission à propos de la 19e conférence internationale sur le sida. Depuis le début, cette conférence met l'accent sur la possibilité de venir à bout de cette épidémie. C'est vrai qu'on sait ce qu'il faut faire, mais le paradoxe est que si certains pays avancent, d'autres rencontrent encore de grosses difficultés. On a parlé hier de la situation en République démocratique du Congo. Il y a aussi les pays de l'Est de l'Europe et de l'Asie centrale. Mais étonnamment aussi un pays qui rencontre quelques difficultés dans la prise en charge des porteurs du VIH-Sida, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, je vous propose de parler plus précisément des co-infections. De nombreux patients porteurs du VIH-Sida sont aussi touchés par la tuberculose ou les hépatites. Alors comment prendre en charge ces maladies? Quelles sont les difficultés? Des maladies qui touchent aussi largement les usagers de drogue avec des difficultés pour mettre en place des programmes de prévention dans un certain nombre de pays. Une émission réalisée avec l'appui de l'Union européenne. Je présente mes invités. Tout d'abord le professeur Michel Kazatchkine, qui est ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il est aujourd'hui émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et Asie centrale. Également avec nous le professeur Jean-Michel Molina, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Olivier Maguet, de Médecins du Monde. Et le docteur Karim Diop, coordinateur du programme Esther au Sénégal. Bonjour à tous, on arrive à la fin de cette conférence. Tout d'abord, j'aimerais bien faire un premier tour de table. Qu'est-ce qui vous a semblé pour vous le plus important dans cette rencontre, professeur Michel Kazatchkine, pour commencer?
C'est une sorte d'esprit d'optimisme, un état d'esprit qui est celui de dire nous y arriverons. Nous avons les outils pour pouvoir arriver à contrôler l'épidémie. Ce que je veux dire par contrôler l'épidémie, ça veut dire que ce sont nos efforts de prévention et nos efforts de traitement qui vont maintenant influencer sur le cours de l'épidémie, plutôt que c'est le cours de l'épidémie qui va influencer nos interventions. Et puis un jour peut-être en terminer avec cette épidémie. Je dois dire que je partage ce sentiment et je partage cette analyse. Mais ce qui me frappe aussi ici, ce sont les disparités qui vont croissantes. Alors, comme vous l'avez rappelé, alors que dans votre introduction, alors que 55% des gens maintenant ont accès au traitement, en tout cas 55% des gens qui en ont le plus besoin dans le monde en développement. Cette couverture en traitement est de 13% dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, elle est de 23% en Europe de l'Est et en Asie centrale, alors que la mortalité et le nombre des nouvelles infections diminuent en Afrique en particulier. Ce n'est pas le cas dans d'autres régions et dans d'autres populations vulnérables, et particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et les usagers de drogue, qui sont une épidémie très négligée. Je suis heureux que Olivier abordera ce sujet tout à l'heure dans notre émission. Et ce qui est clair, c'est que nous n'arriverons jamais à imprimer un tournant dans cette épidémie et en finir avec cette épidémie si, d'une façon urgente, nous ne rattrapons pas ces retards et si nous ne réduisons pas ces écarts.
Juste une remarque intéressante par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que finalement l'Afrique, dans tout ça, a de bons résultats, alors qu'on a toujours stigmatisé l'Afrique sur le fait qu'on n'avançait pas dans ce continent.
L'Afrique a des résultats absolument remarquables, mais l'Afrique, comme vous l'avez vous-même souligné, a ses propres disparités.
Professeur Molina, vous, qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de cette conférence ?
Bien, je crois également que nous sommes à un tournant de la prise en charge du VIH-Sida actuellement, et un grand nombre d'études, dont beaucoup d'ailleurs ont été menées en Afrique, laissent penser qu'il est possible effectivement de réduire le nombre de nouvelles contaminations grâce aux traitements antirétroviraux lorsqu'ils sont bien utilisés et largement diffusés. Et je crois que c'est un signe important que de pouvoir mettre en avant ainsi les recherches qui ont été menées en Afrique et qui vont s'appliquer d'ailleurs au reste du monde. Et les données de ces études sont maintenant, largement discutées au niveau international et vont faire partie, ou font partie déjà, des recommandations de l'OMS sur une nouvelle utilisation des traitements et de nouvelles recommandations d'ailleurs sur l'utilisation de ces traitements. Je rajouterai aussi que, comme à chaque conférence, c'est une opportunité absolument formidable, ces réunions scientifiques, de pouvoir rencontrer tous les acteurs de la recherche, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des chercheurs, qu'il s'agisse des acteurs communautaires. Et il est évident que de pouvoir se retrouver tous ensemble pendant les conférences nous permet également d'avoir des échanges extrêmement productifs, au-delà même des informations qui sont délivrées pendant les sessions scientifiques.
Concrètement, c'est utile pour votre travail, vous, par exemple, quand vous menez
la recherche. Extrêmement utile, oui.
Docteur Karim Diop, je l'ai dit, vous êtes coordinateur du programme Esther au Sénégal. Vous vous retenez quoi pour l'instant de cette conférence ?
Je partage les premières analyses faites sur le message d'espoir, mais je retiens également qu'il y a toujours une recherche de stratégie pour voir comment faire face effectivement à cette épidémie. Alors aujourd'hui, il y a un débat qui me laisse un peu perplexe, c'est le fait que il semblerait que mettre le focus sur les pays qui sont les plus touchés est une option, et on s'interroge également sur le fait que les financements se réduisent. Il y a des préoccupations très fortes de certains pays face à certaines situations. Et donc, je retiens cela, la nécessité de vouloir mettre le focus sur l'impact des programmes, sur les résultats.
Concrètement, ce que vous dites là, c'est entre autres les Américains qui ont dit qu'il faudrait, pour être le plus efficace, aller dans les pays les plus touchés. Et vous, au Sénégal, vous n'êtes pas forcément dans les plus touchés. Évidemment, vous êtes un peu inquiet quand vous entendez ça.
Absolument.
Olivier Maguet ?
Je vais avoir une réponse un petit peu biaisée par rapport à votre question, puisque nous étions arrivés, nous médecins du monde, avec une feuille de route qui était assez claire, la question du VHC, des hépatites virales.
De l'hépatite C, entre autres.
Hein. Hépatite C, oui. C'est une question qui n'est pas l'objet de cette conférence, puisque nous sommes sur le VIH-SIDA, mais Michel le rappelait, à travers des sous-populations, comme les usagers de drogue, qui sont particulièrement concernés. Donc là, pour rebondir sur les propos de Michel, je commencerai par les disparités. Pour ceci dit, terminer par une note d'espoir, puisque nous avons pu travailler avec des réseaux de la société civile, en particulier issus du Sud, sur la mise en place d'une coalition internationale, sur laquelle nous reviendrons, j'imagine, au cours de l'émission, pour un accès à des traitements abordables pour le traitement de l'hépatite C. Donc ça, c'est des acquis très positifs pour nous, acteurs de la société civile, engagés dans la réduction des risques auprès d'usagers de drogue de cette conférence.
Des traitements qui sont très très chers contre l'hépatite C. Nous, on a régulièrement des appels d'auditeurs qui disent « Mais pourquoi c'est gratuit finalement sur le sida et pas sur les hépatites ?» Professeur Jean-Michel Molina, je l'ai dit, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez présenté hier, pendant cette conférence à Washington, une nouvelle étude de l'ANRS sur les co-infections menées en lien avec le Brésil. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, nous sommes très heureux, effectivement, qu'à l'occasion de cette conférence, nous ayons pu présenter les résultats d'une étude que l'ANRS a menée avec une coopération franco-brésilienne, puisque les sites participants se trouvent à la fois au Brésil et en France. Et cette étude avait pour objet d'essayer de définir un traitement antirétroviral qui soit mieux toléré et potentiellement plus efficace que le traitement aujourd'hui disponible chez les patients atteints de tuberculose.
C'est-à-dire quand il faut donner les deux traitements en même temps.
Exactement. Et comme vous le savez, c'est une difficulté particulière que de donner un traitement antirétroviral chez quelqu'un qui a besoin par ailleurs d'un traitement pour sa tuberculose en raison de multiples interactions médicamenteuses. Et donc, actuellement, il n'existe qu'un traitement recommandé par l'OMS dans cette indication. Et l'objet de l'étude que l'ANRS a menée dans ces deux pays était justement de trouver une alternative à ce traitement par l'efavirin, ce qui est le traitement de référence aujourd'hui, en utilisant une nouvelle molécule antirétrovirale qui est une molécule dont le mécanisme d'action est différent. C'est un inhibiteur de l'intégrase du virus du sida, une anti-intégrase, le raltégravir. Et l'étude avait pour objet de démontrer que l'utilisation de cette molécule pouvait s'avérer aussi efficace et aussi bien tolérée que les favirins, qui est, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui le traitement de référence.
Et du coup, avec moins de problèmes avec les traitements contre la tuberculose ?
Eh bien, en tout cas, c'est une alternative, si vous voulez. Je crois que c'est la première fois, en tout cas, qu'une telle étude est présentée. C'est la raison pour laquelle la présentation a été sélectionnée dans le cadre des sessions qu'on appelle de late breaker, des innovations thérapeutiques de la conférence. Et les favirins, qui est aujourd'hui un traitement qui est tout à fait intéressant, pose malgré tout un certain nombre de problèmes en Afrique du fait de l'augmentation des résistances à ces médicaments antirétroviraux, du fait d'une tolérance qui n'est pas toujours parfaite, en raison également d'un risque potentiel de tératogénicité, c'est-à-dire de malformation chez les femmes enceintes au moment de la grossesse, qui font penser qu'il est souhaitable d'avoir en tout cas d'autres alternatives. Et donc l'intérêt de cette étude était de montrer effectivement qu'avec le raltégravir, nous disposons aujourd'hui d'une autre alternative à ce traitement. Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça élargit les options thérapeutiques pour les cliniciens qui ont à prendre en charge les personnes qui sont atteintes à la fois du VIH et de la tuberculose.
Ça pourrait changer les préconisations, justement ?
Alors, l'étude que nous avons menée est une étude, on va dire, ce qu'on appelle de phase 2, donc une étude de taille intermédiaire qui ne sera pas suffisante pour modifier les recommandations de l'OMS. Mais c'est notre objectif à terme et donc, fort de ces résultats, nous envisageons effectivement de poursuivre la recherche dans ce domaine et d'envisager de mettre en place, en utilisant d'ailleurs le réseau que l'ANRS a constitué dans les pays du Sud, c'est-à-dire à la fois en Afrique, sur le continent américain et en Asie du Sud-Est, mettre en place un essai de plus grande envergure pour justement permettre potentiellement de modifier les recommandations sur la base de ces études.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, Priorité Santé est à Washington à l'occasion de la 19e conférence internationale sur le sida. Professeur Kazatchkine, aujourd'hui dans cette émission, on parle des co-infections, VIH, sida, tuberculose, hépatite et aussi la question des usagers de drogue. Finalement, quel est le lien entre toutes ces questions-là ?
Le lien est très fort. Il y a quelques jours, je participais ici à une session qui s'intitulait « Des épidémies jumelles, twin epidemics, entre l'usage de drogue et le sida ». Mais moi, j'étais intervenu pour dire que pour moi, ce ne sont pas seulement deux jumeaux. En fait, il y a quatre enfants qui évoluent en parallèle.
C'est
l'usage de drogue, les quadruplés, l'usage de drogue, le sida, la tuberculose et l'hépatite C. Et évidemment, une de nos craintes, c'est que nos abords de ces maladies soient trop verticaux. Qu'on parle d'un côté de la co-infection avec la tuberculose, d'un côté de la co-infection avec l'hépatite C. Et c'est particulièrement, évidemment, critique pour la région à laquelle je vais particulièrement consacrer mon travail maintenant, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale.
Alors justement, je l'ai dit, vous êtes émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et Asie centrale. Alors quelle est d'abord la situation du sida dans ces pays-là ?
Bien, le secrétaire général a souhaité qu'il y ait un émissaire parce que nous sommes face à une crise importante. C'est une région où l'épidémie continue de croître alors que dans l'ensemble du monde, elle s'est quelque part stabilisée. 200% d'augmentation de l'épidémie dans les 5 dernières années. C'est une région où la mortalité s'accroît, où le nombre des nouvelles infections s'accroît, où la féminisation de l'épidémie s'accentue alors que toutes ces tendances sont en plateau dans le reste du monde. C'est une région où l'accès au traitement est la moitié de ce qu'il est par ailleurs dans les pays à revenus intermédiaires et les pays...
Moitié moins qu'en Afrique.
Moitié moins que la moyenne mondiale. Et puis c'est une région d'une très grande complexité. Très grande complexité parce que 70% des personnes qui ont contracté le VIH depuis le début de l'épidémie dans cette région l'ont contracté à travers l'échange de seringues et l'usage de drogue. Et que cette épidémie pose des problèmes considérables, singulièrement dans cette région, la stigmatisation et la discrimination, des politiques publiques de santé qui sont inadaptées, en particulier une très forte criminalisation de l'usage de drogue. Je ne parle pas du trafic, de l'usage, comme encore dans beaucoup de pays du monde, qui fait que les usagers ne peuvent pas accéder aux services, parce que si vous vous rendez dans une clinique et que vous êtes arrêté en chemin, et que,
vous comme avez pas envie d'y
je
aller.
L'ai entendu, vous écopez de 5 ans pour la possession d'un gramme de cannabis, évidemment, vous n'irez pas. Ensuite, la complexité, ce sont les co-infections que vous avez mentionnées, et puis la diminution des financements, qui est un problème maintenant dans notre lutte contre l'épidémie du sida, mais particulièrement dans les pays à revenus intermédiaires. Or, ne l'oublions pas, et là je ne parle pas seulement de cette région, 70% des pauvres de la planète vivent maintenant dans les pays à revenus intermédiaires, où les disparités entre les riches et les pauvres s'accentue avec la croissance économique.
Professeur Kazatchkine, il y a un rapport qui est sorti au mois de juin sur l'impact de la guerre contre la drogue dans le monde, justement sur l'épidémie de sida, un impact tout à fait négatif.
Absolument, ce qu'on appelle la guerre contre les drogues, the war on drugs, qui a été déclarée par le président Nixon il y a 40 ans, est un échec total. Les drogues sont de plus en plus facilement accessibles, elles sont de moins en moins chères, la consommation s'est accentuée, de nouvelles drogues arrivent, vous détruisez un champ de pavot à gauche, il y en a un autre qui arrivera à droite, vous arrêtez un type de drogue, des drogues synthétiques vont apparaître à côté, et l'emprisonnement des gens et la punition des gens n'est en aucune façon quelque chose qui arrêtait ou freinait même l'usage. Et j'ajoute que l'incarcération est un facteur de risque pour nous de contracter la tuberculose et de contracter le VIH. Donc on est dans un cercle vicieux insensé. Aux États-Unis ici, 2 400 000 personnes sont incarcérées chaque année. Et là-dessus, près de 40% des incarcérations sont liées directement ou en partie à ce qui s'appelle des drug offenses, à l'usage de drogue. Vous rendez compte du coût que cela représente? Si ce coût était investi dans la santé, on ferait beaucoup plus de progrès.
Olivier Maguet, vous travaillez pour Médecins du Monde, Médecins du Monde qui a mis en place des programmes de réduction des risques. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consistent ces programmes? Est-ce que vous pouvez prendre l'exemple de l'Afghanistan, où j'étais il y a quelques années avec vous en reportage justement à Kaboul pour voir ce que vous faites?
Alors, pour faire écho à la situation dramatique que décrit Michel, il existe par ailleurs des réponses qui sont extrêmement efficaces, des réponses pharmacologiques avec des traitements, des réponses techniques avec la mise à disposition de moyens de prévention pour éviter la transmission de ces virus infectieux. Ces moyens sont essentiellement la mise à disposition de seringues stériles, de seringues neuves, la mise à disposition de traitements de substitution. On remplace un opiacé illégal par un opiacé prescrit par un médecin et délivré par un infirmier.
Qui permet de décrocher, entre guillemets.
Ouais, ce qui permet de sortir d'une dépendance à une drogue de rue, avec tous les phénomènes associés à la vie à la rue, dont le lien avec la tuberculose qui est établi aussi ici, parce que si la prévalence de la tuberculose est plus élevée dans cette population, c'est aussi parce qu'en raison même de la stigmatisation et de la discrimination dont font l'objet ces personnes, au-delà de la question du VIH, plus globalement, l'insertion est à un niveau zéro, j'ai envie de dire. Donc du coup, on a des modes de vie qui sont extrêmement dangereux pour la santé, bien au-delà de la question donc, des infections virales. Donc ces traitements et ces services existent. Ils portent un nom d'ailleurs, hein. Ça s'appelle la réduction des risques liés aux usages de drogue. Voilà ce que cela signifie, c'est-à-dire un petit peu sans chercher à traiter la toxicomanie, répondre en tous les cas à une urgence sanitaire et sociale qui est efficace. Et pourquoi elle est efficace, la méthadone? C'est certainement le médicament qui a été le plus évalué de façon scientifique au monde depuis qu'il est utilisé en 1964. D'ailleurs, accessoirement, la première utilisation de la méthadone à des fins de substitution a eu lieu ici, aux États-Unis d'Amérique, pays qui n'a pas suffisamment tiré les leçons de cette efficacité puisqu'il a déclaré la guerre à la drogue. Donc l'idée en Afghanistan, comme peut-être dans les autres programmes, et avec tout l'enjeu sur le continent africain, sur le
Viendron, en parlera dans la deuxième partie, entre autres, avec voilà. Le docteur Karim Dok qui nous dira ce qu'il va mettre en place au Sénégal.
Nous essayons, à Médecins du Monde, d'introduire dans des pays où cela n'existe pas, ces outils, ces méthodes de la réduction des risques. Ça a été le cas en Afghanistan. Qui est bien connu sur la question des drogues.
Connu en tant que producteur, on oublie producteur. Un peu qu'il y a aussi du coup des usagers.
Voilà. En revanche, moins connu sur le fait que la prévalence, le nombre de consommateurs dans le pays est énorme. Le nombre d'usagers d'héroïne a augmenté de 140% en 4 ans. Et encore, je parle ici de chiffres officiels issus de données des Nations Unies, sachant que nous sommes dans un pays qui dispose de peu de moyens pour pouvoir analyser finement la situation.
Et ce programme de réduction des risques en Afghanistan, il fonctionne, il donne des résultats? Est-ce qu'on sait l'impact que ça a?
Oui, il fonctionne, il donne des résultats. Le dernier élément, donc, alors aujourd'hui, 40 ONG, suite à l'introduction de ces méthodes d'intervention en Afghanistan en 2006 par Médecins du Monde, 40 ONG ont été formées. Ont mis en place des programmes d'échange de seringues dans tout le pays. La méthadone a été introduite il y a 2 ans, mais on fait l'objet de blocages politiques parce que c'est un sujet qui est un petit peu sensible.
Beaucoup de pays l'interdisent.
Beaucoup de pays l'interdisent. J'ajouterais que sur l'Afghanistan, on est un petit peu dans l'hypocrisie et la corruption aussi, puisqu'on a un petit mélange la guerre aux drogues prend toute sa dimension. Et là aussi un échec total. Et les acteurs de la guerre aux drogues en Afghanistan sont aussi par ailleurs très investis dans à un haut niveau de décision publique et font un petit peu obstacle à ce médicament qui quelque part s'oppose à leur marché illicite. Mais ça marche. Il y a eu des publications, des rapports d'évaluation, dont le dernier en date fait par l'OMS en 2011, avril 2011. John Hopkins University qui est en train de finaliser son rapport d'évaluation. Et en Afghanistan comme ailleurs, j'ai envie de dire, nous assistons au même résultat, arrêt des consommation, arrêt des pratiques à risque, réinsertion pour certains d'entre eux et amélioration de l'état général de santé et de vie. Oui, bien sûr.
On se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler des co-infections VIH, SIDA, tuberculose et hépatite, des maladies qui touchent aussi largement les usagers de drogue avec des difficultés pour mettre en place ces programmes de prévention, ces programmes de réduction des risques. On parlera entre autres de ce qui se met en place au Sénégal et de ce qu'il faudrait faire en Europe de l'Est et en Asie centrale.